Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, vous avez pu voir que Constance et Luce ont décidé de... Enfin, Luce surtout, a décidé d'emmener sa fille en Alsace pour retrouver Nicolas, déjà dans un premier temps, parce qu'elle n'est pas trop fan de laisser Nicolas seul, on va dire, avec Émilie. Et puis, elle a pris Constance avec, parce que déjà, elle ne peut pas la laisser toute seule à la maison non plus, vu ce qui s'est passé la dernière fois. Et aussi, il faut absolument qu'elle renoue, qu'elle refasse quelque chose pour renouer les liens avec sa fille et essayer de la comprendre, surtout voir un petit peu ce qui peut se passer. Et bon, c'est pas gagné du tout, hein. Luce, en très bon thérapeute, s'en sort beaucoup mieux avec ses propres patients qu'avec sa propre fille. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 38, Les Vernes, été 1947. Pendant plusieurs jours, le désespoir élut domicile dans mon âme. Un désespoir total, complet. Clara avait retrouvé ce rire et cette voix que je lui connaissais à mon arrivée, gaie, colorée, pleine de vitalité, comme si le monde alentour ne s'était pas effondré. Puis, amère, je me fis la réflexion que, à l'évidence, son monde à elle se portait à merveille. C'était le mien qui se lézardait de toutes parts, prenait l'eau par d'innombrables fissures, fissures où se faufilaient sournoisement des haillons de désespoir et de haine. Antoine ne ressentait donc absolument rien pour moi, me disais-je plusieurs fois par jour, tentant de m'en convaincre. Pire, il n'avait jamais rien ressenti pour moi, et les joues écarlates de honte, je dus bien reconnaître que, à l'instar de Basile, je m'étais fait des films, toute seule. Clara avait raison. Pourtant, je ne parvenais pas tout à fait à y croire. J'avais lu une infinie tendresse dans ses yeux quand il m'écoutait parler de mon enfance, quand il prenait parfois mon visage dans ses mains, tout doucement. Tout cela avait bel et bien existé. D'ailleurs, après la fracassante révélation qu'il nous avait faite, Clara et lui, quelque temps plus tôt, Antoine, paradoxalement, redevenait plus gentil, plus doux et plus attentif envers moi, comme au début de notre histoire. Alors, l'espoir, aussi fragile qu'une bulle de savon, reprit le chemin de mon cœur. Tout doucement, presque furtivement à mon insu, et malgré mes efforts pour le chasser, s'incrustait comme un invité impoli. C'est en descendant à la cave un soir afin d'aller chercher des pommes de terre entassées au bas des marches, dans une espèce d'enclos, ainsi que quelques bocaux de confiture de cerises de l'été dernier, que cet infime espoir se consolida quand, arrivé à mi-chemin, ma corbeille d'osier à la main, je m'arrêtais, croyant entendre des voix. Effectivement, Antoine et Clara, occupés à transporter une énorme motte de beurre d'au moins 3 kilos, emmaillotée dans des feuilles de rhubarbe, discutaient entre eux. « Voilà, ça vient de la mère Richois, la laitière. Tu vois, de temps en temps, elle nous en donne une », fit Clara essoufflée. « Un cadeau, comme ça, pour rien ? C'est gentil de sa part. »« Oh, pour rien, je sais pas, la dernière fois, elle m'a bien spécifié que c'était « pour mon mari, l'écrivain, pour qu'il se remplume un peu. »« Ah bon, elle t'a dit ça, elle me trouve un peu déplumée. »« Ben, faut croire. » « Je pense qu'elle en pince un peu pour toi. »« C'est fou !» fit encore Clara. « Qu'est-ce qu'elles ont toutes après toi ? Si encore t'étais beau, mais même pas tant que ça !» Elle se mit à rire, mais Antoine ne lui fit pas écho. Elle reprit sur un ton plus grave. « Écoute, arrête de faire cette tête. Je vois bien que ça ne va pas depuis la petite conversation qu'on a eue l'autre soir. Mais je te jure qu'on a fait ce qu'il fallait. » Après un instant de silence, Antoine répondit. « Si, ça va, ça va. C'est simplement que je ne peux pas m'empêcher de penser à Lilou. Je revois sa tête quand on lui a annoncé que j'avais une liaison avec Val. Elle est devenue toute blanche. J'ai même cru qu'elle allait s'évanouir. On lui a fait mal, Clara, très mal. Et je sais bien que c'est pour la bonne cause, mais elle en a déjà tellement vu dans sa courte vie. J'ai vraiment l'impression d'être un bourreau. Mais tu n'es pas un bourreau, tu es l'être le plus gentil que je connaisse. » Si l'on exclut ma petite personne. Non, sans rire, continua Clara. Il n'y avait pas d'autre solution, on les a toutes passées en revue. Il faut qu'elle t'oublie, qu'elle sorte et se fasse des amis de son âge. Je pense qu'elle a fait une fixation sur toi parce qu'elle vit trop isolée, ici. Elle ne sort presque jamais du domaine, elle ne côtoie que nous, et du coup, elle a jeté son dévolu sur toi, parce que tu t'es intéressée à elle, à ses problèmes, et que comme toute jeune fille un peu trop sentimentale, elle a commencé à rêver. Tu es devenu en même temps une sorte de grand frère, de confident, d'ami, et crois-moi, il n'en faut pas plus parfois pour tomber amoureuse. C'est ma faute alors ? Mais non, c'est la faute de personne, c'est comme ça, c'est tout. Lilou s'en remettra, tu verras, elle a survécu à des choses atroces, elle va survivre à ça aussi. Il lui faut juste un peu de temps. L'idéal serait qu'elle nous quitte, qu'elle trouve un travail ailleurs, tu ne crois pas ? Je n'aurais pas le cœur de la renvoyer. Sous quel prétexte, d'ailleurs ? Elle n'a rien fait de mal. Je sais bien, je dis surtout ça pour elle, mais d'accord, attendons de voir comment elle réagit. Antoine continua. La voir ainsi, si malheureuse, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Oui, bien, ne fais surtout jamais ça, sinon... Oui, je sais bien. Soudain, la voix de Clara se fit encore plus basse. D'ailleurs, parfois, je discerne chez elle quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Quelque chose de dur, de minéral, comme si elle était prête à écraser n'importe quoi sur son passage pour arriver à ses fins. T'exagères pas un peu ? Peut-être, mais j'ai vu son regard quand elle m'a dit, comme si c'était elle la maîtresse de maison, qu'elle ne voulait plus voir Basile. Elle avait l'air persuadée que nous allions le mettre à la porte pour la contenter. Elle était énervée, choquée aussi par le comportement de Basile. Et puis, je suppose qu'avec la vie qu'elle a menée, elle n'a pas eu d'autre choix que de se fabriquer une carapace pour faire face à son père et tout ça. Mais elle ne me voyait même pas. Elle ne regardait que toi. Comme si tu étais une sorte de messie, de sauveur, et que tu allais l'emmener sur ton fier destrier blanc dans ton magnifique château, que vous alliez vivre en vous regardant dans les yeux et en vous susurrant des mots d'amour pendant l'éternité. Arrête de dire n'importe quoi. Clara fit mine de balayer la remarque du revers de la main. Pensons plutôt à nous deux, à notre vie quand on sera parents. Je culpabilise un peu quand je pense que ce sera l'enfant de Valentine et pas le mien, mais vraiment, je crois qu'on fait ce qu'il faut. Le bébé sera heureux avec nous, et Val sera heureuse aussi. Elle pourra le voir quand elle voudra, elle pourra même rester avec nous si elle le désire. Ça ne posera pas de problème. On leur doit tellement à Joe et à elle. C'est vrai. Sans oublier que, mine de rien, cet enfant sera aussi notre ticket de retour en Suisse. Le plus silencieusement possible, je m'approchai du mur et lançai un coup d'œil sans qu'ils m'aperçoivent. Ils se tenaient là, l'un en face de l'autre, et je vis Antoine lever la main afin de caresser la joue de Clara, qui souriait et qui prit cette main dans la sienne en penchant légèrement la tête, comme pour mieux accueillir cette caresse. J'en eus le souffle coupé. Comment pouvait-il être si proche alors que ce mariage, comme Clara l'avait dit, n'était rien d'autre qu'un mariage de raison, où chacun y trouvait son compte? Pour moi, on épousait un homme et on faisait ensuite tout pour le garder jalousement, veillant à ce qu'aucune autre femme ne s'en approche trop près. Clara, elle, se moquait complètement que son mari puisse avoir des aventures. Il se portait un amour que je ne parvenais tout simplement pas à comprendre. Puis, j'entendis Antoine murmurer. « Tu as tellement fait pour moi par le passé. Tu ne disais pas grand-chose, mais je sais bien que tu voulais un enfant. Et moi aussi. Tu vas l'avoir. Et s'il y a bien une chose dont je suis absolument certain, c'est que cet enfant sera le plus joyeux du monde. » Discrètement, je quittai les lieux, emportant dans ma corbeille d'osier quelques pommes de terre, ainsi qu'un renouveau de confiance et d'espoir. « J'ai eu envie de la prendre dans mes bras », avait dit Antoine. Je n'avais pas rêvé, il l'avait bel et bien dit, et s'il ne l'avait pas fait, c'était à cause de Clara. Quel secret les liait, quelle promesse Antoine avait-il faite à sa femme par le passé ? Je ne pouvais pas encore répondre à ces questions, mais ce dont j'étais sûre, c'est qu'ils avaient voulu me tromper, me faire croire, pour une raison encore inconnue, qu'un amour entre Antoine et moi s'avérait impossible. Clara voulait briser mes rêves afin de réaliser les siens. Une vie de famille avec Antoine et l'enfant de celui-ci, qu'elle ferait passer pour le sien. Elle voulait m'éloigner, m'effacer de leur vie, et bien je ne lui ferais pas ce plaisir. Mes rêves valaient bien les siens, et je ferais tout pour les réaliser. Il faudrait cependant que je fasse plus attention dorénavant. En effet, Clara semblait être beaucoup plus perspicace que je ne le pensais. Ses mots, elle a quelque chose de dur, de minéral, comme si elle était prête à écraser n'importe quoi sur son passage pour arriver à ses fins, me revenaient en mémoire. J'entrai à la cuisine dans un état d'esprit complètement différent de celui qui m'animait quand j'en étais sortie auparavant pour chercher des pommes de terre. Amoureuse, certes, encore plus qu'avant même, mais plus lucide aussi. Sur mes gardes, afin d'endormir la méfiance de Clara. Elle avait voulu me faire croire qu'Antoine ne ressentait absolument rien pour moi et avait réussi à entraîner ce dernier dans son mensonge, afin, comme elle disait, que je l'oublie. Comme si c'était mon genre. En râpant un peu de noix de muscade sur ma purée, je réfléchis à ce que j'avais entendu. Antoine et Clara, certes, semblaient fort liés, par un secret, par une promesse. Mais la véritable rivale restait Valentine. Encore plus maintenant qu'elle portait l'enfant d'Antoine. C'était elle la menace. Elle ne voulait pas de cet enfant, disait-elle. Mais quand serait-il plus tard, quand il viendrait au monde? J'espérais qu'elle partirait une fois qu'elle aurait accouché, vivre la vie qu'elle voulait à l'autre bout du monde si elle le souhaitait. Le plus loin possible serait le mieux. Fiévreusement, j'échafaudais diverses hypothèses, dont la plus souhaitable serait que Valentine rencontre elle aussi, enfin l'amour, puisque je ne pouvais imaginer à l'époque qu'une femme normale puisse rêver de s'accomplir professionnellement. Je pris le pot qui contenait habituellement le lait et me rendis compte qu'il était vide. N'ayant aucune envie de me rendre à la dépense, la petite pièce située près de l'étable, où l'on conservait certaines réserves car les murs épais gardait une certaine fraîcheur, j'ouvris la fenêtre et criai « Basile !» Je savais celui-ci occupé à fendre du bois dans le bûcher, mais contrairement à son habitude, il ne sortit pas tout de suite. Quand j'eus réitéré mon appel, plus fort et sur un ton impatient, il daigna enfin apparaître, lentement, et leva un regard vide vers moi. « Va vite me chercher du lait à la dépense !» fis-je. Puis, comme il ne bougeait pas, j'ajoutai « Allez !» À ma stupéfaction, il se contenta de secouer la tête d'un air méprisant et de regagner le bûcher d'un pas lourd. Aussitôt, j'entendis à nouveau le claquement du yadzo, comme le disait Armand sur le bio. Ulcéré, je m'emparai du pot en porcelaine bleue et blanc et me rendis moi-même à la dépense. Cet imbécile suivait les ordres de Clara à la lettre. Il ne voulait plus m'aider, même pour les choses les plus basiques. En retraversant la cour de derrière, muni de mon pot rempli de lait, je faillis le percuter de plein fouet. Il sortait du bûcher, les cheveux et les vêtements pleins de sciure. Surprise, je fis un bond en arrière, lâchant le pot qui éclata sur le sol. Le lait ainsi répandu, formant aussitôt de longues rigoles entre les pavés inégaux. « Tu m'as fait peur, tu peux pas faire attention, non ? » criai-je furieuse. Il resta là, planté devant moi, dans le soleil, continuant à me regarder, sans esquisser un geste vers moi. Un peu ébranlé par cette attitude peu habituelle de sa part, je me baissai afin de ramasser les plus gros morceaux de porcelaine, persuadé qu'il allait également s'accroupir pour m'aider. Mais j'en fus pour mes frais. Toujours sans proférer un mot, il me tourna le dos et s'en alla, remettant sa casquette à carreaux sans plus de façon. « Il t'en veut !» Levant la tête, j'aperçus Armand. Il se baissa aussitôt pour m'aider et répéta. « Il t'en veut, mais ça ne durera pas, je le connais. » Je ne savais pas trop que dire. Pour moi, Armand restait toujours une énigme, un être un peu à part auquel je ne prêtais à vrai dire pas grande attention. Je me souvenais cependant du soulagement que j'avais ressenti quand un jour, il avait posé ses mains sur mes épaules. Alors qu'énervé, je venais de frapper un petit chat. D'ailleurs, ce dernier qui avait bien grandi depuis, arrivait, attiré par l'odeur du lait répandu, et se mit à laper en suivant le parcours du liquide. Nous restâmes là, tous les deux, encore accroupis et les bras chargés des fragments de porcelaine, l'observant sans rien dire, quand soudain, le chat rassasié vint vers Armand, posa ses deux pattes sur son genou et, penchant la tête comiquement, émit deux petits miaulements, comme pour le remercier, puis satisfait, s'en alla. « De rien, vieux !» fit Armand en réponse à ce curieux interlocuteur. Puis il me regarda en souriant et je ne pus m'empêcher de rire. Je me sentis bizarrement troublée devant ce regard si semblable à celui d'Antoine. Je crois bien que c'est à ce moment-là qu'une idée germa dans mon esprit.